écoutez un podcast Agora Côte d'Azur.
Agora Côte d'Azur.
Bonjour à toutes et à tous. Et si les semaines qui viennent, nous parlions encore de la transition écologique et de son côté sombre ? Continuons alors en parlant des réalités de l'industrie minière.
Agora Côte d'Azur. Sur Agora Côte d'Azur, vers un avenir meilleur. Bastien Botazzi.
Nous avons parlé la fois précédente d'Aurore Stéphane et de l'association à but non lucratif Systex. Cette semaine, nous allons donc étudier plus précisément les réalités de l'industrie minière d'après le discours de Madame Stéphane. Si les pauvres éoliennes et panneaux photovoltaïques en prennent plein la figure, puisqu'ils seraient à l'origine de plein de problèmes, il y a avant tout un modèle de développement qui repose sur une matérialité. La première chose qu'on entend, c'est la notion de métaux rares. Un métal rare, c'est un pléonasme. Pour quasiment tous les métaux, sauf 5, qui sont l'aluminium, le fer, le magnésium, le titane et le manganèse. Et pourquoi ? Parce que la teneur d'exploitation moyenne à l'échelle internationale dans les mines industrielles a dépassé la dizaine de pourcents pour le reste, on peut descendre jusqu'à des concentrations de moins de 0,1 g par tonne exploitée pour l'iridium. Il faut déjà avoir ces chiffres en tête. Le deuxième point, c'est le processus d'extraction. Il faut déjà récupérer tous les petits grains présents dans la roche exploitée en isolant uniquement la matière recherchée. Il faut donc commencer par récupérer les zones où il y en a le plus et les sortir du cortège de substances associées. Si on recherche de l'or, on aura probablement également présent dans la roche de l'argent, de l'uranium, de l'antimoine, du cuivre, du zinc, de l'arsenic, du barium et du mercure. C'est-à-dire que pour récupérer mon fameux 0,8 g par tonne moyen d'or, et pour une tonne exploitée, on récupère moins d'un gramme de métal, et dans la tonne qu'il me reste, j'aurai probablement une ou plusieurs de ces substances. On comprend vite que ce traitement va être très long. À défaut, on résume trop souvent la mine à sa partie d'exploitation, en pensant que le minerai, ça fait du métal, mais ça se passe pas du tout comme ça. Ce n'est que la première étape qu'on appelle l'extraction. Pour le cuivre, on obtient par exemple une concentration à 0,6% lors de cette étape. La deuxième étape, ça va être alors d'isoler les minerais intéressants en broyant le tout finement et par traitement chimique. On obtient une farine concentrée à 30% de cuivre. Troisième étape, ou extraction chimique, schématiquement une fonte, permettra d'obtenir un cuivre grossier ou blister concentré entre 98 et 99,5%. À ce moment-là, ce n'est toujours pas du cuivre utilisable par l'industrie. Il faut alors passer par une quatrième et dernière étape, le raffinage, qui consiste à enlever les dernières impuretés pour obtenir une cathode de cuivre concentrée à 99,99%. Et c'est cette cathode qui va ensuite donner des tubes, des plaques, des films, des câbles ou des composants utilisables. Ces quatre étapes, on peut les appliquer à presque toutes les substances. Autre chose qu'on entend beaucoup, c'est que cette industrie se passe principalement sur le continent africain dans des conditions terribles avec souvent le travail des enfants. Madame Stéphane précise bien qu'il n'y a pas de travail d'enfant dans les mines industrielles. La mine industrielle, c'est celle qui produit 88% des métaux, 80% du charbon, 69% des minéraux industriels, 80% de l'or, 60% des diamants. Si on regarde l'emprise au sol de ces mines, sans parler de tonnage d'exploitation, on constate que 52% de cette surface se trouve dans 6 pays. Russie, Chine, Australie, États-Unis, Indonésie, Brésil. Ensuite, on veut aller jusqu'à 75% de cette surface, il faut rajouter 7 pays. Canada, Chili, Afrique du Sud, Pérou, Guyana, Argentine et Inde. C'est donc 75% de l'emprise de ces mines qui se situe dans uniquement 13 pays, dont un seul sur le continent africain et pas n'importe lequel, l'Afrique du Sud. L'industrie minière est par ailleurs le premier producteur industriel de déchets solides, liquides et gazeux. Dans l'exemple du minerai dont est issu le cuivre, c'est donc 99,4% de la matière extraite qui est considérée comme un déchet. Avec les coproduits contaminants qu'on pourra trouver, dans le cas de l'or, on rejettera donc de l'arsenic et du mercure. Autre problème, comme à Roziapoeni, en Roumanie, où on trouve la deuxième réserve de cuivre du continent européen, on a des contenances moyennes avec 0,36% de cuivre et 0,20 g par tonne d'or sur un site de 4 km². Les boues rejetées par l'usine de traitement ont rempli un fond de vallon et détruit un village de plus de 1000 âmes sans aucune indemnisation. Aujourd'hui encore, ce sont 4 à 5 millions de tonnes qui sont déversées chaque année. En Nouvelle-Calédonie, pour revenir en France, avec le site de Goro, ouvert en 2011 pour l'extraction du nickel et du cobalt, on a une zone d'exploitation de 3 km². Une unité de préparation du minerai de 1,9 km², un parc à résidus de 3,2 km² et une usine de traitement du minerai de 1,5 km². Le tout relié à l'océan par une conduite de rejet des effluents de plus de 20 km. Ce site est situé en bordure de 3 réserves naturelles terrestres et de la réserve intégrale Merlet, ainsi que d'une zone classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. En Norvège, ce sont les fjords qui servent de zone de déversement des déchets miniers. Par ailleurs, les chercheurs alertent sur le manque de recul, des effets et des impacts sur la faune, la flore et la santé humaine. Cette industrie se trouve associée au plus de meurtres des défenseurs des droits humains, au plus de violations des droits humains sur des sites industriels et associée au plus grand nombre de conflits socio-environnementaux au niveau mondial. La tendance actuelle est triple. Nous verrons donc dans nos prochaines chroniques les évolutions prévisibles des systèmes miniers. En attendant d'en savoir plus, peut-être devrions-nous commencer à remettre en cause certains modèles, mais avant tout, nos besoins.